Bien, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Pour ma chronique numéro 5, le titre me paraît s'imposer, les crapules parlent haut et fort. Je relève dans l'actualité économique, monétaire, générale et financière, tout d'abord dans l'actualité d'économie monétaire, la continuité des ventes hebdomadaires d'or par la BCE, le Federal Reserve Board, le FMI. Cet or est racheté par la Chine qui l'échange contre dollars US jusque-là détenus en réserve. Ce faisant, la Chine fait ce que faisait la France jusqu'en 1973, officiellement. Le résultat, elle maintient autour de 900 dollars US de l'once d'or. Et le tassement maîtrisé du cours du dollar US qui résiste tellement bien qu'il est certain qu'il va remonter à un point avec l'euro avant 2 ans, selon moi. Soit une plus-value attendue pour ceux qui en auront gardé de l'ordre de 33%. Il est même plus que probable, j'ajoute, que le dollar montera au-dessus de l'euro, comme cela s'était produit au début de la création de l'euro. Parce que pendant que l'Amérique va se redresser beaucoup plus vite que l'Union européenne, les pays qui la composent, il faudra ensuite relancer cette économie européenne, donc probablement avec une dévaluation monétaire au-dessus de 1 pour 1, donc un accroissement de cours encore du dollar au-dessus de 1 pour 1. Dans l'économie générale, c'est l'incroyable volonté de la formidable masse des 7 millions de fonctionnaires de continuer à vivre comme si de rien n'était, pendant que l'autre moitié dite active de la France perd ses revenus par pans entiers qui m'est à moi insupportable. Les fonctionnaires n'ont aucun droit particulier, contrairement à ce qu'ils ont fait croire à tout le monde, finissant eux-mêmes d'ailleurs par croire aussi à leur propre slogan, à force d'habitude prise. La Constitution précise bien, depuis l'ordonnance validée ensuite légalement du 2 janvier 1959, numéro 59-2, portant loi organique, numéro 71-474, car modifiée au JO du 23 juin 1971, dans son article 17, que, je cite exactement, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget annuel ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Par conséquent, l'idée suivant laquelle les fonctionnaires, une fois embauchés, auraient un emploi à vie est une simple idée reçue et n'a aucune réalité, ni juridique fondamentale, ni d'ailleurs économique. Comme tout le monde, ils peuvent être licenciés sur simple changement de politique annuelle ou en cas de difficulté économique de l'État. Aucun règlement ne peut aller contre les statuts de cette association particulière, baptisée Constitution, et qui forme la loi fondamentale de l'État incontournable. Si nous ne pouvons ou même ne voulons plus payer d'impôts, ni nous endetter à l'étranger, comme le font allègrement le gouvernement actuel, le président de la République, depuis au moins 3 ou 4 décennies, les licenciements de fonctionnaires sont donc de droit indiscutable le 31 décembre de chaque année, qu'on se le dise. Il n'y a donc jamais eu, sauf dans les délires des fonctionnaires, d'obligation pour une moitié de la France à se faire tondre à vie par l'autre moitié. Il faut en finir, nous n'en pouvons plus. Si les fonctionnaires ne veulent pas se retrouver comme en RDA en 1990, 4 millions, et ce serait 7 ou 8 millions en France actuellement, c'est-à-dire presque le double, sur le pavé, sans un franc de revenu, ils doivent mettre la pédale douce et commencer à changer d'emploi d'eux-mêmes vers le secteur productif avant la catastrophe, laquelle a bien failli exploser à l'automne dernier 2008, et qui va exploser de toute façon prochainement. Ah, c'est sûr, ce sera plus dur pour eux que de pantoufler en tapant dans les poches des autres, mais pas plus que pour ces malheureux qui perdent actuellement leurs emplois sous le poids des prélèvements réputés obligatoires, tous les jours en augmentation. pas une seule année depuis 40 ans n'a vu diminuer l'ensemble des prélèvements obligatoires. Dans l'actualité financière, je relève aussi que les communiqués de la Banque de France sont clairs. Un léger tassement de l'augmentation de la masse de monnaie crédit et une propension un peu accrue des agences économiques à taper dans l'épargne en refusant tout crédit nouveau sont soulignés constamment. Les banques se vengent en tondant leurs clients épargnants sur les marchés boursiers puisqu'ils ne veulent plus payer d'agios de crédit. Et si cela ne suffit pas, elles recourent aux autorisations comptables et aux couvertures de l'État. Bah ouais. D'où mon conseil patrimonial du jour. Et comme je l'indiquais sur mon blog personnel serviteurdubienpublic.blogspot.com, tel un sous-marin en perdition qui aurait plongé dans des profondeurs dangereuses, mais qui retrouverait tout à coup la force de remonter plein moteur et plein cabré, les bulles de la bouteille du scaphandrier en bourse crèvent la surface en bondissant hors de l'eau comme un dauphin. Comme je l'avais prévu, et ce n'est pas fini, la remontée des bulles du scaphandre s'accélère. L'action Dow Chemical, par exemple, achetée 5,27 euros depuis mars, début mars, était hier 30 avril à 12,06 euros, soit une plus-value de 128,84% en moins de 2 mois, soit encore un taux équivalent, pour obtenir la même chose en compte sur livret, qu'il aurait fallu trouver, d'environ 750% l'an, rien que ça. Elle devrait monter jusqu'à 38 euros, disent dans la presse, par exemple, les Échos. Il est possible de sortir dès maintenant, au moins en partie, par conséquent, avec bonus de plus du doublement de votre investissement depuis début mars. Pourquoi de telles variations injustifiées par l'état réel de l'entreprise? Baisse incroyable suivie de remontée partielle. C'est simple. Nous sommes prisonniers d'un système, qui est quand même un système d'escroc de la pire espèce, qui n'hésite pas à droguer le pays de monnaie crédit depuis des décennies, puis à l'endetter pour des générations, avec comme seule excuse pitoyable et inadmissible de sauver leur rang de situation immédiate. Il s'agit clairement et juridiquement de crapules. Les crapules étant des humains qui tuent pour de l'argent, et eux, ils tuent tout le pays pour faire de l'argent avec de l'argent. Leur boulimie ne peut s'expliquer que d'une seule manière. Ils veulent transformer le plus vite possible, et ceci depuis des décennies, dans un maximorum de biens réels, la fausse monnaie inventée par leurs propres organisations crapuleuses, les banques devenues complètement dégénérées actuellement. Nous sommes loin du temps où le banquier était rigoureux et honorable. Nous sommes bien obligés de constater que les banques font exprès via leurs opérateurs de faire descendre sur des marchés qui n'en sont pas d'ailleurs, livrés qu'ils sont à la loi de la jungle, les cours des actions pour gagner ensuite en les faisant remonter. Ce faisant, ils escroquent, faut quand même le constater, sciemment leurs clients, et les contribuables en plus, par-dessus le marché, sans jeu de mots, au cas où ils ne seraient pas laissés faire en vendant à perte. Le sachant, il vaut donc mieux en profiter, c'est ce qui nous permet de nous manquer d'eux à leurs frais. Transmettez bien mon message à tout le monde. Mon histoire de la monnaie se poursuit dans son numéro 5 par la vieille coutume de trop d'impôts qui toujours tue l'impôt. Au total, toutes les quantités métalliques d'argent et d'or extraites, puis mises en circulation sous forme de pièces, généralement de divers poids et divers poinçons depuis 700 ans avant Jésus-Christ, alimentèrent la circulation monétaire de toute l'économie occidentale, en gros jusqu'au partage de l'Empire de Charlemagne en 843. Certes, au prix d'une dévaluation permanente du pouvoir d'achat. La monnaie unique d'argent, euro africaine, avait alors duré 15 siècles. Cette ancienne habitude laisse encore de nos jours, 1100 ans plus tard, presque, 11 siècles plus tard, des traces dans le langage courant jusqu'au distributeur automatique de bouts de papier colorés qui nous écrivent sur l'écran « Prenez votre argent ». alors qu'il devrait plutôt dire prenez votre monnaie ou plutôt encore vos billets. Le mot monnaie étant applicable normalement aux pièces justement à cause de l'histoire. Mais nous arrivons seulement à ce moment de notre parcours, en plus 350, sous Julien, empereur délégué pour l'Occident de l'empereur Constantin, censé régner lui sur la totalité de l'Empire romain depuis Constantinople, christianisé. Depuis toujours, de mémoire d'homme, l'or et l'argent étaient utilisés indifféremment dans un rapport de 1 pour 1, même si l'or, plus rare que l'argent, n'était sorti que dans les périodes de crise aiguë. L'un et l'autre métal étaient considérés comme aussi précieux l'un que l'autre et d'égale qualité monétaire, même si l'argent s'oxyde et noircit à la longue, d'où d'ailleurs l'expression de monnaie noire qui sera employée 800 ans plus tard sous Philippe IV le Bel. Sous Julien donc, la sesterce gauloise pèse alors 2,511, désormais assimilée à l'ars, dévaluée comme on l'a vu au niveau de l'ancienne uncia depuis Alésia. D'un total, cette sesterce, de 70,8725 et qui représente la division en 15 onces ou 6 sesterces de la livre réévaluée, elle, à 425 grammes, alors qu'elle était découpée auparavant en 10 as plus forts, donc dévaluation de l'as devenue once, du 10e au 15e de la livre, mais rééquilibrage par la réévaluation de la livre. Toujours ce couple magique, véritable tour de passe-passe d'évaluation-réévaluation. Mais ce cycle infernal est heureusement enrayé par une courageuse réforme fiscale de l'empereur Julien pour l'Occident. Contre l'avis de tous les hauts fonctionnaires et hauts dignitaires des Gaules de l'époque qui se plaignaient du déficit public et réclamaient donc plus d'impôts, il divisa par deux la pression fiscale. De deux à une seule sesterce d'impôt annuel par foyer fiscal. Le résultat fut formidable. L'économie repartit. On dirait aujourd'hui la croissance par la relance de la consommation entraînant l'augmentation de la production et donc plus d'emplois. Et sans un sou d'inflation. Façon de parler car le sou n'existait pas encore à ce moment-là. Les caisses du trésor public se remplirent bien plus en fin de compte qu'avec une nouvelle hausse des impôts, éternel remède entre guillemets, préconisé de tout temps par les technocrates fonctionnaires chaque fois que l'argent vient à manquer dans les caisses publiques. Cet exemple de Julien reste à méditer de nos jours où il est devenu évident que trop d'impôts tuent toujours l'impôt et où nous vivons le comble de l'absurdité d'une hausse des impôts pour alimenter la sacro-sainte croissance ou plus récemment cet automne 2008, enrayer la récession, ce qui revient au même. Nous verrons donc la prochaine fois que l'avenir est malheureusement la répétition systématique du passé pour une seule raison. Les humains sont apparemment incapables de tirer les leçons du passé, qu'en plus, ils ignorent souvent volontairement, à l'époque de l'écriture, sauf en ce qui les arrange à l'immédiat. C'est cette désinformation qui permet l'incroyable intox de l'éducation nationale depuis la Révolution, l'Empire et plus récemment Jules Ferry. Notre prochain épisode s'intitulera donc « Avenir, miroir du passé ».